Bonjour à toutes et à tous. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Le déconfinement progressif se poursuit peu à peu et je vois que déjà les uns et les autres recommencent à se voir. Et nous prions Dieu pour que bientôt ce soit le cas pour nous tous. Merci en tout cas pour la lecture biblique, la lecture de ce texte. Je me concentrerai pour ma part sur les versets 9 à 14. Cet après-midi, nous poursuivons notre cheminement de Pâques à la Pentecôte. Le 10 avril, nous avions célébré le Vendredi Saint dans une atmosphère solennelle, en souvenir du sacrifice de Jésus, ce sacrifice sur la croix pour nos péchés. Puis il y a eu Pâques où nous avions la joie de célébrer Jésus ressuscité, vainqueur sur le péché et sur la mort. Et nous avons vu aussi à travers le texte de 1 Corinthiens 15 que Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples, ce qui atteste qu'il était bien vivant. La dernière fois, nous avons lu le début du livre des Actes qui nous a montré comment Jésus a tout préparé pour que son royaume s'étende jusqu'au bout de la terre. Et pour cela, il a envoyé ses apôtres, ses témoins, pour annoncer aux femmes et aux hommes de toutes les nations que le pardon des péchés se trouve en lui, Jésus-Christ. Et ils ne seront pas tout seuls. Le Saint-Esprit les accompagnera, les équipera pour cette mission. Et aujourd'hui, nous abordons donc la suite de ce texte. Nous sommes 40 jours après la résurrection. Le moment est venu pour Jésus de rejoindre Dieu, son Père. Sa mission terrestre était donc terminée à ce moment-là. Il avait déjà tout accompli à la croix. Désormais, ses disciples allaient prendre la relève pour poursuivre la mission. Dans notre calendrier, l'Ascension est un jour férié. Et parfois, on y ajoute un pont, ce qui constitue un long week-end. C'est appréciable, mais malheureusement, c'est aussi de cette façon que nous avons tendance à oublier ce que signifie l'Ascension. Qui d'entre nous a pensé jeudi dernier à ce jour où Jésus est retourné auprès du Père? Et de manière générale, pourquoi l'Ascension est-elle une fête si peu considérée? Cet après-midi, je voudrais mettre en valeur cet événement historique. Jésus qui est monté au ciel, ce n'est pas rien. Évidemment, pour les apôtres, c'est un grand changement. Ils ont passé plus de 3 ans aux côtés de Jésus et ce jour-là, ils l'ont vu partir pour de bon. Ils ont passé plus de 3 années à le suivre dans son ministère et puis ce jour-là, il n'était plus là. En réalité, le départ du Maître n'amorce que le début d'une nouvelle étape pour les disciples et pour l'Église à venir. Luc, après avoir rappelé la résurrection de Jésus, ajoute le récit de l'ascension qui précède tout ce qu'il va suivre, c'est-à-dire la Pentecôte, la naissance de l'Église, la propagation de l'Évangile de Jérusalem jusqu'au bout de la terre. Et nous avons dans notre texte un double mouvement. J'aimerais simplement attirer votre attention là-dessus. Un double mouvement. Jésus qui retourne au ciel, là d'où il vient, et puis les apôtres qui retournent à Jérusalem, là où ils doivent attendre la venue du Saint-Esprit. Nous avons donc ce double mouvement et ce que notre texte semble nous enseigner, c'est que comme pour les disciples, l'ascension de Jésus, au lieu de nous arrêter, nous met en mouvement. L'ascension de Jésus, au lieu de nous arrêter, comme si c'était un jour férié, nous met en mouvement. Et à travers le texte d'Acte 1, nous voyons bien que l'absence de Jésus n'est pas un frein à la poursuite de l'histoire. Et cela pour 3 raisons que j'aimerais énoncer. Premièrement, que l'absence de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. Ensuite, l'absence de Jésus est temporaire. C'est ce que nous apprenons à partir de ce texte. Et puis enfin, l'absence de Jésus ne met pas fin aux réunions de prière. Commençons donc par cette première raison. Pourquoi l'absence de Jésus n'est pas un frein à la poursuite de l'histoire? Eh bien, parce qu'elle n'est pas la fin de l'histoire. En fait, très sobrement, en un seul verset, Luc nous raconte l'ascension de Jésus. Et sans doute qu'il n'a pas jugé nécessaire d'en dire plus. Luc place cet événement de l'ascension après les paroles que nous avons lues la dernière fois. Et je vous les rappelle simplement. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis ensuite, le verset 9, après avoir dit cela, donc les paroles que je viens de relire, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Le mouvement est clair, Jésus monte au ciel avec son corps ressuscité. Et il faut préciser que le ciel en question ne désigne pas celui que nous voyons, enfin en tout cas dans un premier temps c'est le cas, mais plus exactement le ciel que Jésus rejoint, ce n'est pas le ciel que nous voyons, mais c'est là où Dieu demeure. C'est là où les anges le servent et l'adorent. C'est là où c'est un endroit que nous ne pouvons pas voir de nos propres yeux. Et donc Jésus, dans son corps, est retourné auprès de Dieu, dans ce ciel-là précisément. Et c'est un événement historique, et il faut le redire, c'est un événement historique que Luc nous rapporte. Il n'en dit pas plus, si ce n'est qu'une nuée a servi de voile pour le dissimuler au regard des apôtres. Et pour beaucoup de spécialistes, cette nuée rappelle la manifestation de la gloire de Dieu. Pour donner un exemple, cette nuée est présente dès le livre de l'Exode. Après sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël, qui était dans le désert, a pris le temps de confectionner le tabernacle comme Dieu, l'avait souhaité. Et donc ils assistent à cette mise en place du tabernacle, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu. Et nous lisons au dernier chapitre du livre, dans Exode 40, verset 34, Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc il est fait mention de cette nuée ici dans le livre d'Exode. Jésus est donc parti, dissimulé par cette nuée qui rappelle la gloire de Dieu. Et il importait que cela se passe sous les yeux des apôtres pour qu'ils en soient les témoins oculaires. C'est de cette manière que Luc a pu nous rapporter aussi, nous raconter ce qui s'est passé à partir de ces témoins oculaires, parce qu'ils ont vraiment vu la scène. Les apôtres devaient voir de leurs yeux leur maître partir pour de bon. Mais comme je le disais, l'absence de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. D'abord, elle n'est pas la fin de l'histoire par rapport au livre des Actes, puisque nous ne sommes qu'au premier chapitre. Et ensuite, elle n'est pas la fin de l'histoire par rapport à notre histoire, celle dans laquelle nous nous trouvons. Alors commençons d'abord par le livre des Actes. Mais juste avant, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu le film E.T. et se souviennent, si vous vous souvenez de la fin de ce film. E.T., c'est un extraterrestre qui a vécu avec une famille américaine. Et à la fin du film, et tant pis pour ceux qui ne l'auront pas vu, à la fin du film, je sais Clément, oui, je spoil, à la fin du film, il rejoint son vaisseau spatial sous les yeux des terriens avec qui il a vécu un certain temps. Et le film se termine avec le départ et la disparition du vaisseau dans l'espace. Ça, c'est la fin de cette histoire. Alors, je ne vais pas me mettre à comparer Jésus à E.T., mais pour ce qui concerne l'ascension de Jésus, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Et dans le livre des Actes, après l'ascension, il y a la Pentecôte. Et déjà, à plusieurs reprises, lorsque Jésus était sur la terre encore, il avait annoncé ce moment où il allait retourner auprès de son Père. Il faisait bien sûr référence à son ascension. Et parallèlement, il avait compris, pardon, il avait promis de ne pas laisser les disciples tout seuls. Le Saint-Esprit serait avec eux. J'aimerais simplement lire quelques passages de l'évangile de Jean à ce sujet. Donc, Jésus s'adresse à ses disciples et leur dit dans Jean 14: Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Et puis dans Jean chapitre 16: Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus part, nous parlons de l'ascension, Jésus part afin de pouvoir envoyer l'Esprit qui sera avec ses disciples pour toujours. Et lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre prendra la parole pour dire très clairement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2 et versets 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, dit l'apôtre Pierre. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez. Comme le jour de la Pentecôte, bien que Jésus soit absent de corps, ici-bas, puisqu'il est au ciel, il est bien présent aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et pour nous, c'est quand même difficile de bien saisir cette réalité. Jésus qui est bien au ciel est pourtant présent par son Esprit. Mais nous acceptons et nous croyons ce que Dieu nous révèle de lui. Jésus est parti pour nous envoyer son Esprit. Et par son Esprit, nous sommes unis à lui, Jésus. Par son Esprit, Jésus demeure en nous. Et c'est pour cela que nous pouvons affirmer qu'il est avec nous tous les jours, comme il a promis. Et n'oublions pas que l'Esprit Saint est Dieu. Jésus est monté au ciel, mais il est avec toi par son Esprit. Si tu as placé ta foi en lui, Jésus est monté au ciel, mais il est avec toi par son Esprit. Si tu as placé ta foi en lui. Ça, c'était ce qui concernait le livre des Actes. Maintenant, plus largement, si vous me permettez de prendre une vue plus large encore par rapport à l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que l'ascension de Jésus a comme impact sur l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que l'absence de Jésus a comme impact? Eh bien, l'absence de Jésus n'est pas la fin de l'histoire parce que, justement, il est auprès de Dieu et qu'il règne. Plusieurs textes du Nouveau Testament nous indiquent qu'il est assis à la droite de Dieu. Et cette position est celle du roi, de celui qui domine sur tout ce qui se passe ici-bas. Nous l'avons chanté aussi dans la première partie du culte. Jésus est roi. Et j'aimerais simplement vous proposer de lire avec moi un extrait de l'Épître aux Éphésiens qui nous parle de cela. Dans Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 22. Cette puissance, il, c'est-à-dire Dieu, l'a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous avons un roi qui règne actuellement dans le ciel. Et pour celles et ceux d'entre nous qui croient en lui, nous lui avons remis notre vie entière pour qu'il règne sur nous. Jésus est dans le ciel et il règne. Il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Avons-nous confiance en ce roi qui règne? En France, cela fait moins de 2 siècles qu'il n'y a plus de monarchie. Et c'est vrai que dans notre quotidien, nous ne connaissons pas la réalité que nous voyons parfois dans les films, cette réalité de vivre dans un royaume gouverné par un vrai roi ou par une vraie reine. Nous ne connaissons pas vraiment cette réalité au quotidien. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Nous avons un roi qui est là-haut, dans le ciel. Et les théologiens font bien de nous rappeler que ce roi, Jésus-Christ, est aussi un homme. C'est un homme qui règne dans le ciel. un homme qui mérite tous les honneurs. C'est un homme qui mérite que nous nous inclinions devant lui, non seulement parce qu'il est roi, mais parce qu'il est Dieu. Est-ce que nous prenons conscience que Jésus, entièrement Dieu, entièrement homme, et surtout entièrement homme, est assis dans les cieux et règne? Vous pouvez imaginer n'importe quel roi ou reine à partir des films que vous avez vus, mais nous avons un vrai roi et il règne. Et les disciples savent que Jésus a reçu tout pouvoir et cela va les encourager dans leur mission. C'est Jésus qui va leur permettre de répandre l'évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie et même jusqu'à Rome. Et il en est de même pour nous qui envisageons notre mission. Nous avons un roi qui gouverne l'univers et à qui rien n'échappe. Aucun événement de l'histoire de l'humanité, aucun événement de notre vie personnelle ne lui échappe. Alors, est-ce que cela t'incite à lui faire confiance entièrement? Non seulement pour ta vie, mais aussi pour tout ce que tu entreprends pour la mission. Pour le dire encore autrement, l'absence corporelle de Jésus est une bonne nouvelle pour nous, parce que ça veut dire qu'il règne actuellement dans les cieux. Et il a prévu de nous faire participer à son œuvre, chacun avec les dons qu'il a reçus, mais il a prévu de nous faire participer à son œuvre. Et nous savons que le résultat final, à savoir le salut des hommes et des femmes, est entre ses mains, parce qu'il est roi. Alors, as-tu confiance en ton roi? Nous venons de voir premièrement que l'absence de Jésus n'est pas la fin de l'histoire, mais de là où il est, il a envoyé son esprit pour demeurer avec nous. Et de là où il est, il agit souverainement sur tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Alors deuxièmement, il nous faut voir en quoi cette absence corporelle de Jésus est temporaire. L'absence de Jésus est temporaire. C'est du moins ce qu'annoncent deux hommes qui sont en habit blanc, et donc vraisemblablement des anges, et qui s'adressent aux apôtres, au verset 11. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Sans cette intervention soudaine, les disciples seraient restés figés, peut-être un bon moment, le nez levé au ciel. Et nous pouvons les comprendre parce que eux qui ont passé tant de temps avec Jésus, ça devait être difficile de quitter ce lieu où Jésus venait de les laisser. Et les deux anges les secouent un peu verbalement. « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» Autrement dit, Jésus est parti et il vous a donné une mission. Pourquoi restez-vous planté là? Et contrairement au film Marvel, il n'y a pas de scène post-générique. Il est temps de quitter la salle de cinéma. Contrairement à la fin d'un spectacle où les acteurs reviennent sous les applaudissements, Jésus n'est pas revenu. La nuée est comme ce rideau de scène qui tombe et qui signifie que c'est fini. À peine Jésus est-il parti que les anges annoncent de suite qu'il reviendra. Certes, pas tout de suite, mais ils précisent « ce Jésus, le même qui vient de monter au ciel, ce Jésus sera un jour de retour. Il reviendra en personne, dans son corps glorifié, sur une nuée. » Et comment nous savons que c'est aussi sur une nuée? Eh bien, Jésus lui-même l'a annoncé à ses disciples. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 21, versets 27 et 28. Alors on verra, c'est Jésus qui parle, alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Ce retour sera différent de son départ. Car lorsque Jésus reviendra, cet événement sera visible par tous et pas seulement par quelques-uns, comme c'est le cas ici durant l'ascension. Non, lorsque Jésus reviendra, tous pourront le voir. Et Matthieu rapporte dans son évangile que tous les peuples verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Et cette annonce de Jésus qui revient sur les nuées est en fait une prophétie que nous trouvons déjà dans l'Ancien Testament, chez le prophète Daniel. Et nous lisons dans Daniel 7, verset 14, « Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Cette prophétie qui concerne le Fils de l'homme, et ce sont bien les termes qui sont utilisés dans cette prophétie de Daniel, cette prophétie qui concerne le Fils de l'homme nous apprend aussi qu'il reçoit la domination et que son royaume ne sera jamais détruit. Et bien sûr, nous parlons bien de Jésus ici. Nous devons nous souvenir que Jésus reviendra avec puissance et avec gloire. Et cette annonce nous concerne tous, croyants comme non-croyants. Et pour toi qui ne crois pas en Jésus, sache que son absence corporelle n'est que pour un temps. Que son absence sur terre n'est que pour un temps. Sache aussi que son retour mettra fin définitivement à la souffrance, mettra fin aux conséquences du péché, mettra fin au péché lui-même. Cette tendance au péché que tu as précisément du mal à contrôler, Jésus y mettra fin. C'est en lui que tu peux encore cet après-midi placer ta confiance. Parce que le jour où Jésus reviendra, ce sera pour nous juger en fonction de la considération que nous avons eue pour lui. Soit nous l'aurons ignoré durant notre vie, et alors il ne reste qu'une juste condamnation à subir, à savoir la séparation éternelle avec Dieu, ce que nous appelons aussi l'enfer. Soit nous aurons mis notre foi en lui, nous aurons cru que sa mort pour nos péchés et sa résurrection suffisent pour que Dieu nous déclare juste. Et dans ce cas-là, c'est ce que je t'encourage à faire, de mettre ta foi en lui. Parce que dans ce cas précis, la perspective du retour de Jésus est déjà pour nous un sujet de joie, car nous serons avec lui pour toujours. Revenons à la question des anges. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Qu'est-ce que les disciples ont fait lorsqu'ils ont appris que Jésus allait revenir ? Eh bien, ils se sont mis en mouvement. En l'absence de Jésus, ils ont œuvré activement à la mission que le Seigneur leur a confiée. Et de même, sachant que Jésus va revenir, est-ce que nous participons à l'œuvre qu'il nous a confiée dans sa grâce ? À la fois à l'échelle de l'Église, mais aussi d'un point de vue personnel. Est-ce que, en sachant que Jésus va revenir, nous nous sommes mis à l'œuvre aussi pour participer à la mission qu'il nous a confiée ? Parce que Jésus ne va pas indéfiniment être absent. Et nous savons que son retour signale la fin de la mission. Alors, avec son esprit qui demeure en nous, continuons d'annoncer Christ là où il n'est pas connu, dans notre famille, parmi nos amis, parmi nos camarades de classe, parmi nos collègues de travail. Annonçons Christ. Et à l'échelle de l'Église, annonçons Christ aussi là où l'Église est implantée, dans la ville de Saint-Maur. Et tout cela avant le retour de notre Seigneur. Mais avant de nous lancer tête baissée dans ces initiatives, nous devons encore regarder de plus près ce que les apôtres ont fait. Nous avons vu que l'absence de Jésus n'est pas la fin de l'histoire, c'est même le début d'une nouvelle étape pour les apôtres et pour l'histoire de l'Église. Nous venons de voir que l'absence de Jésus est temporaire. Un jour, il reviendra, mais cela ne signifie pas que nous n'avons rien à faire. La mission continue jusqu'à son retour. Et à présent, voyons dans notre texte en quoi l'absence de Jésus ne met pas fin aux réunions de prière. Après les paroles des anges, les apôtres, ces hommes de Galilée, ne retournent pas justement en Galilée, ils retournent à Jérusalem. les apôtres se mettent en mouvement. Et dans le récit, les petits mots ont parfois leur importance. Et ici, le petit mot en question, c'est « alors », verset 12. Ils ont entendu ce que les anges ont dit. « Alors », verset 12, « ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. » Et puis ensuite, nous avons la liste des apôtres. Luc signale que l'ascension de Jésus a eu lieu depuis le Mont des Oliviers, cet endroit qui est si familier pour les disciples. Et ce mont n'est pas très loin de Jérusalem. Alors pourquoi retourne-t-il à Jérusalem? Eh bien, parce que Jésus leur a commandé de rester dans cette ville pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et les apôtres ne font qu'obéir aux paroles de leur maître qui est désormais parti. Luc précise ensuite qu'une fois à Jérusalem, ils se réunissent dans une pièce à l'étage, sans doute une pièce qui se trouve à l'étage d'une maison. D'autres versions traduisent qu'il s'agit d'une chambre haute, c'est-à-dire une pièce qui est en tout cas suffisamment grande pour accueillir les 11 apôtres dont nous avons les noms ici. Et nous savons par la suite du texte qu'un 12e rejoindra l'équipe. Nous l'avons lu dans le texte d'aujourd'hui. Nous savons par ailleurs que dans la configuration des maisons de l'époque, cette chambre haute était un lieu idéal pour des conversations privées, mais également pour prier. C'était un lieu tranquille où on pouvait parler sans être inquiété d'être écouté et où on pouvait surtout prier. Voilà le nouveau quartier général de l'équipe de Jésus. Et nous lisons au verset 14 que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En l'absence de Jésus, les apôtres ont ressenti ce besoin de se retrouver régulièrement avec celles et ceux qui ont connu Jésus comme eux et qui ont cru en lui. Que ce soit des femmes qui ont suivi le Seigneur pendant son ministère, ou que ce soit la famille de Jésus elle-même. Alors, il y a la mention de Marie, pour la dernière fois dans le Nouveau Testament, ici. La mention de Marie, sa mère. Et puis, la mention des frères de Jésus, qui, nous le savons par les évangiles, ne croyaient pas en lui avant qu'il puisse se rendre à l'évidence, peut-être en le voyant ressuscité. Nous avons ici une partie des disciples de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après le départ de Jésus? Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Les commentateurs suggèrent qu'ils priaient en fonction de ce que Jésus leur avait dit, en fonction de la promesse qu'ils avaient reçue, à savoir le don du Saint-Esprit. Dieu l'avait promis. Et vous voyez que cela n'empêche pas que les disciples puissent prier à ce sujet. Dieu l'avait promis et allait le réaliser, mais cela n'empêche pas les disciples de pouvoir prier à ce sujet pour que Dieu réalise sa promesse. Les apôtres priaient peut-être aussi pour la mission que Jésus leur avait confiée. Mais notons qu'ils persévéraient. Hommes et femmes se réunissaient régulièrement pour prier Dieu au nom de Jésus. Ils persévéraient. Et Luc précise qu'ils le faisaient d'un commun accord. Nous pouvons imaginer les retrouvailles qu'ils ont eues, réunion après réunion. Jésus est parti, mais les réunions se multiplient. Jésus est parti, mais les réunions se multiplient. Les temps de prière, de communion avec Dieu étaient nécessaires pour ces hommes et ces femmes qui étaient comme vous et moi. Et Luc met en avant que les premiers chrétiens, avant même qu'ils aient ce nom d'ailleurs, que les premiers chrétiens avaient l'habitude de prier ensemble. Et un chapitre plus loin, nous découvrons que ce sera une des marques, une des caractéristiques de l'Église naissante. Dans Actes chapitre 2, versets 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Notez qu'il s'agit ici du même verbe, ils persévéraient, dans beaucoup d'aspects et en particulier dans les prières. Nous envions parfois cette époque de l'Église primitive. Ce début du christianisme nous fait envie. Quel réveil, 3000 personnes. Certains chrétiens ont cherché d'ailleurs à revivre ce qui était décrit dans les Actes, en évangélisant dans la rue, en cherchant à produire des miracles. Mais combien ont inclus les réunions de prière dans ce retour aux Actes? Mes amis, je considère que nous vivons des temps différents de l'époque des Actes. Le contexte est différent. Pourtant, ce qui caractérise l'élan des premiers chrétiens, à savoir cette persévérance dans la prière, eh bien, ce qui caractérise l'élan des premiers chrétiens ne devrait pas changer avec le temps, avec les époques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces hommes et ces femmes sont comme vous et moi. Alors, la question que je pose, c'est sommes-nous des chrétiens et des chrétiennes persévérants quand il s'agit de prier en groupe? Pourquoi dans tant d'églises, la prière est un point faible? Pourquoi les réunions de prière ne sont pas aussi populaires? Et je parle d'une manière générale. Mais je crois que nous avons oublié d'agir d'un commun accord. Comme c'est écrit dans le texte. Nous avons oublié d'agir d'un commun accord. Nous ne sommes pas mis d'accord pour prier ensemble. Et Luc nous laisse cet exemple des apôtres et de celles et ceux qui l'ont rejoint, qui les ont rejoints pour prier. Qu'en est-il de l'église de Saint-Maur? Je vous le demande. Est-ce que chez nous, c'est un point fort ou un point faible? Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Il est clair que l'absence de Jésus n'a pas mis fin aux réunions de prière. Tout au contraire, les premiers croyants ont persévéré. Et je prie, c'est ma prière, que l'église de Saint-Maur soit une église qui prie, qui se mette en mouvement. Ma prière, c'est que l'église de Saint-Maur soit une église qui vit en commun accord, qui vit l'unité dans la prière. Et je demande à Dieu que l'église de Saint-Maur soit une église qui expérimente la communion fraternelle à travers les moments de prière. Et pas seulement par 2 ou par 3, mais par 20 ou par 30, voire encore plus. Frères et sœurs, il importe que vous soyez des nôtres lors de la réunion de prière, que ce soit le samedi soir ou le dimanche après-midi, dès que vous êtes disponible. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est difficile parfois de se libérer du temps pour cela. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un défi que je vous lance. C'est un appel à l'unité. Alors que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à nous mettre en mouvement et à persévérer d'un commun accord dans la prière. Et je suis certain que c'est ce qu'il veut pour notre Église. Nous n'avons pas fini de faire le tour du thème de l'ascension de Jésus. Il y aurait beaucoup à dire. Par exemple, sur le fait que Jésus intercède pour nous. Jésus prie pour nous alors qu'il est là-haut dans le ciel. Jésus aussi nous prépare une place dans son royaume. Nous n'avons pas abordé cet aspect-là. Ajoutons encore que son ascension nous garantit, l'ascension de son corps glorifié nous garantit que nous-mêmes nous accéderons au royaume de Dieu dans un corps glorifié. Mais je laisse tous ces sujets pour une fois prochaine, et après tout, la fête de l'ascension revient chaque année. Mais pour cet après-midi, retenons que l'ascension de Jésus, et avec la perspective de son retour, loin de nous arrêter, nous mette en mouvement ou nous met en mouvement. L'ascension de Jésus nous met en mouvement. Bien sûr, elle nous rappelle que Jésus est corporellement absent. D'abord, on a vu que l'absence de Jésus n'est pas la fin de l'histoire, car sur terre, il est avec nous par son esprit. Et depuis le ciel, il agit souverainement pour que notre mission réussisse. Ensuite, que l'absence de Jésus est temporaire. Il reviendra. Nous le verrons. Mais en attendant, continuons notre mission. Et enfin, que l'absence de Jésus ne met pas fin aux réunions de prière. Bien au contraire, c'est là que nous avons besoin de persévérance. Jésus, notre roi, absent de corps, mais présent par son esprit. Et dans notre texte, ce n'est que le début avant que la parole de Dieu ne se répande dans le monde. Mais vous l'avez vu comme moi, cela commence par la prière. Et nous prierons jusqu'à ce que notre roi revienne. Nous prierons semaine après semaine jusqu'à ce que notre roi revienne. Et nous ne cherchons pas forcément à revivre le temps des actes comme s'il s'agissait de revivre un âge d'or. Mais nous voulons nous inscrire dans la continuité de la mission que les apôtres et les premiers chrétiens ont commencée. Donc l'ascension de Jésus, loin de nous arrêter, nous met en mouvement. Es-tu prêt? Es-tu prête à suivre ce mouvement? À te mettre en action pour que le nom de Jésus soit connu par le plus grand nombre. Si tu es prêt, si tu es prête, commence par la réunion de prière. Amen. J'aimerais simplement vous laisser un temps pour répondre à Dieu dans la prière. Dans un engagement personnel. Ensuite, je laisserai Samuel nous conduire dans un dernier chant, et puis je prierai juste après le chant.